Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et c'est un des tabous de la culture nationale que Franck Ferrand a choisi d'aborder de front cet après-midi sur Europe 1. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Nous allons en effet poser ou reposer cette question que certains jugent iconoclaste. Molière a-t-il écrit ses pièces lui-même? Avec cette interrogation subsidiaire, et si Pierre Corneille lui avait prêté main forte?
Alors je sens que vous allez encore vous faire des amis.
Ça se pourrait.
Franck, ceux qui connaissent notre programme par cœur auront remarqué que ce débat était initialement prévu pour lundi.
Mais oui Julia, seulement mon invité d'aujourd'hui était un peu souffrant. Nous lui souhaitons un bon rétablissement. Et du coup, c'est dès aujourd'hui que nous rouvrons ce grand dossier Corneille-Molière.
Alors chers auditeurs qui nous écoutez, c'est le moment de poser vos questions par mail à l'adresse d'Europe 1, www.europe1.fr, mais aussi sur la page Facebook de l'émission qui s'appelle Au cœur de l'histoire.
N'hésitez surtout pas, mon invité et moi sommes là pour vous répondre.
Sur Europe 1,
au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
Je vous emmène à Rouen, au milieu du XVIIe siècle. Très grosse ville, Rouen, à l'époque, par son importance marchande, bancaire, juridique. Rouen est, après Paris, la deuxième ville du Royaume de France. Son port fait l'admiration de l'Europe et sa foire, la fameuse foire Saint-Romain, tellement ancienne, est une des plus prestigieuses de tout l'Occident. La métropole normande, où le théâtre est roi, peut se targuer d'abriter en ses murs le plus grand poète français de son temps, une sorte de géant des lettres. Elle est en effet la patrie du grand Corneille. Corneille habite dans une jolie maison bourgeoise, le genre de vieille maison de la Renaissance, dans la rue de la Pie, cette petite rue qui débouche sur la place du Vieux Marché. On dit que Corneille mène là une vie discrète, rangée, à 100 lieues des grandes passions qui se déploient dans son œuvre. Regardez-le avec ses cheveux clairsemés, son gros nez, ses yeux de chien battu, toujours vêtu de noir, finalement pas très remarquable physiquement, c'est à peine s'il nous salue d'un signe de tête. J'ai bien dit, en parlant et en vous le présentant, j'ai bien dit le grand Corneille. C'est en effet la façon dont tout le monde l'appelle, depuis le triomphe inouï du Cid en 1636. Pierre Corneille a beau faire des jaloux, susciter d'innombrables critiques, il reste unanimement considéré à l'époque comme l'auteur majeur de son siècle. Dès 1637, notre Rouennais s'est retrouvé, grâce à cet incomparable succès du Cid, il s'est retrouvé anobli par Louis XIII, sur la demande de Richelieu du reste. Il a été royalement pensionné, il est vénéré dans toute l'Europe. Or, cette gloire, cette espèce de succès phénoménal, trop rapide, tout ça s'est retourné contre lui. En vérité, on peut même dire que la gloire a pris Corneille à son piège. Une vague d'envie, dont témoigne la célèbre querelle du Cid, une vague de jalousie, disons-le, a submergé le jeune auteur. Tous les belliqueux du monde s'acharnent sur son compte et ils vont jusqu'à le rendre improductif pendant 3 ans. Le plus grave pour Corneille, c'est qu'en moins de 10 ans, il s'est retrouvé également prisonnier du genre théâtral dans lequel on l'enferme. Le genre le plus noble, la tragédie héroïque, lui qui n'aimait rien tant que la comédie. N'oublions pas que c'est lui qui, en France, a inventé, a imposé la comédie de mœurs, qu'il y a consacré sa jeunesse, que ses 9 premières pièces ont toutes été des comédies et que la dernière en date, la suite du Menteur, remonte à 1644. Ensuite, il est entré à l'Académie et n'ont suivi évidemment que des tragédies. Pourquoi est-ce que je vous dis évidemment? Mais tout simplement parce que la société d'ordre du XVIIe siècle prétend hiérarchiser les genres, que ce soit en peinture, en musique ou évidemment au théâtre. Aux grands dramaturges, on réserve forcément le domaine noble par excellence de la tragédie à l'antique. En dessous, juste en dessous, il y a la tragicomédie, puis loin derrière, la comédie d'intrigue, les comédies familières de mœurs, de caractère, et puis encore tout à fait en bas, le genre vil, réputé très ordinaire, de la farce. Comment, dans ces conditions, l'auteur de ces grandes tragédies peuplées d'empereurs et de saintes, comment Corneille pourrait-il encore endosser la paternité de rigolade pour les bourgeois? Seulement voilà, Corneille, au fond de lui, aime la comédie. C'est même ce qu'il préfère. Comédie de circonstances, où l'auteur, au passage, peut toujours régler quelques comptes. Ces dames de l'hôtel de Rambouillet ont malmené en 1642 les vers de son sublime Polyeucte. Eh bien, après tout, pourquoi est-ce qu'on leur renvoierait pas la monnaie de leur pièce à travers une satire comique comme Les précieuses ridicules ou Les femmes savantes, là vous me voyez venir, ça y est. Quant à ces messieurs dévots, qui l'ont accusé d'avoir mêlé dans la même pièce le sacré et le profane, comme il serait jouissif de les ridiculiser à travers la figure hideuse d'un faux dévot, dans le genre de Tartuffe par exemple. Est-ce que ce ne serait pas pour un poète injustement relégué? Est-ce que finalement cette façon détournée de se moquer de ses ennemis ne serait pas un type de compensation, voire de vengeance masquée idéale? Encore faudrait-il que le secret soit bien gardé. Encore faudrait-il pouvoir monter de telles pièces sans sortir de l'ombre, les faire monter par un auteur inatteignable, un prête-nom qui bénéficierait ouvertement de la protection personnelle du souverain. Vous voyez où je veux en venir, évidemment. Pierre Corneille, et ça on ne le dit pas suffisamment, et à mon avis c'est une des clés de toute cette affaire, Pierre Corneille a un frère qui a près de 20 ans de moins que lui. Un frère qui est juriste comme lui et qui comme lui est amoureux du théâtre. Il écrit des pièces, le fameux Thomas. Il aimerait bien se lancer à son tour, seulement au moment où il se sent prêt à publier à son tour des pièces sous son nom, son auguste frère fait déjà figure, on dirait nous aujourd'hui, de has-been. Pierre, qu'on appelle parfois Corneille l'aîné pour le distinguer, donc du petit Thomas, Pierre aurait besoin qu'on le secoue un peu. Il aurait surtout besoin qu'on le remette en selle. Nous sommes en mars 1658. Ça fait exactement 6 années que Corneille l'aîné s'est retiré du théâtre. 6 ans depuis l'échec de sa dernière tragédie en date, Pertharite, pièce assez oubliée, faut bien le dire. Et à l'époque, Pierre Corneille avait bien compris que le public s'était lassé. Voilà ce qu'il écrivait. « La mauvaise réception que le public a faite à cet ouvrage m'avertit qu'il est temps que je sonne la retraite. » Et il avait ajouté, durement lucide envers lui-même, « Il est juste qu'après 20 années de travail, je commence à m'apercevoir que je deviens trop vieux pour être encore à la mode. » Est-ce à dire que dans sa maison de la rue de la Pie, à Rouen, le vieux Corneille n'écrit plus? Non, c'est pas tout à fait ça. Il n'écrit plus officiellement de théâtre, mais il continue à faire des vers. De toute façon, il ne pourrait pas s'en empêcher. Vous savez, il fait des vers comme moi je respire. La vérité, et ça Thomas le sait mieux que quiconque, c'est que le vieux Corneille brûle de créer de nouvelles pièces. Depuis que la scène paraît le trouver trop vieux, il a jeté son dévolu sur la poésie religieuse. Il a traduit en vers l'imitation de Jésus-Christ notamment. Mais ne vous y trompez pas, et donc Thomas est très conscient de ça, si Pierre n'écrit plus de pièces, c'est par dépit seulement et non pas par lassitude, pensez-vous. Dire que le théâtre ne le tente plus serait faux. Seulement après 6 ans de silence imposé par une série d'échecs, il aurait besoin donc qu'on lui offre une nouvelle chance. Vous voulez que je vous dise, le grand Corneille, victime du triomphe du Cid et de quelques autres pièces, a été statufié trop tôt dans cette figure du poète national. Alors quoi faire ? Thomas connaît les petites faiblesses de son frère et notamment, il connaît son penchant pour les jeunes actrices. Il sait notamment qu'il est proche, qu'il aime la troupe de Madeleine Béjart. Ce qu'il faut dire à ce sujet, c'est que le père de Madeleine Béjart travaillait autrefois pour le duc de Guise. Le duc de Guise, c'est le protecteur de Pierre Corneille. Vous voyez que tout ça forme en quelque sorte un cercle. Question, est-ce que c'est bien Thomas Corneille qui a contacté d'une manière ou d'une autre Madeleine Béjart et sa troupe à Grenoble aux environs de Pâques 1658? Ça, il faut reconnaître que c'est difficile de l'affirmer, mais c'est une hypothèse très probable. C'était un moyen pour Thomas de faire bouger un peu son frère. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la troupe de Béjart à ce moment-là traverse le royaume du sud-est au nord-ouest, comme ça, d'une traite quasiment sans faire de représentation, sans s'arrêter, et vient s'installer où ça? À Rouen, au jeu de paume des Braques, c'est-à-dire juste au coin de la rue de la Pie, où habite, vous le savez maintenant, une certaine famille Corneille.
Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1.
Sur Europe 1, au cœur de l'histoire, s'intéresse aujourd'hui à l'affaire Corneille, Molière, Franck Ferrand.
Alors, vous avez bien compris la situation, Julia. D'un côté, vous avez un poète un peu vieux avant l'âge, on va dire, mais qui brûle de créer de nouvelles pièces. Pierre Corneille, et puis de l'autre une troupe exsangue mais néanmoins déterminée à tenter pour de bon l'aventure parisienne. Ça, je ne vous en ai pas trop parlé de cette troupe encore, celle de Madeleine Béjart, dans laquelle figure un certain Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière. Ce sont des comédiens ambulants pour le moment. Oh, ils sont pleins d'ambition, ils ont déjà à deux reprises tenté de faire carrière à Paris, mais ça n'a pas tellement marché. Ils cherchent un débouché, ils aimeraient bien, notamment, ils adoreraient avoir l'exclusivité des grandes tragédies du sur Corneille, ça forcément. D'autant plus que Corneille a des relations à la cour, la reine-mère, et puis surtout le surintendant des finances, car Fouquet vient de commander au maître une nouvelle tragédie sur le thème d'Œdipe. Donc, d'un côté, l'expérience des planches et la volonté de réussir. De l'autre, cette envie de continuer, de recommencer, de renouer avec ce théâtre qui est le grand amour de la vie de Pierre Corneille. Alors, pourquoi continuer de nier dans ces conditions qu'un accord ait pu être passé durant ce fameux été 1658 entre le grand Corneille et la troupe de Madeleine Béjart qui n'est pas encore tout à fait celle de Molière? Ces jeunes gens ont besoin d'un coup de pouce, qu'ils commencent par jouer un peu, beaucoup, passionnément. Les pièces de Corneille. Je parle bien ici des tragédies. Attention, c'est une chose de trouver un débouché pour des tragédies, vieilles ou neuves. C'en serait une autre d'écrire sous le manteau des choses légères que l'on s'abstiendrait de signer. D'ailleurs, rien ne dit que ça soit fait aussi vite. Encore une fois, ce qui est sûr, ce qui est certain, c'est qu'à Pâques 1658, Jean-Baptiste Poquelin, il a 36 ans cette fois, a quitté brutalement Grenoble avec tous ses copains comédiens, est venu s'installer à Rouen, qu'il est là à une encablure de la maison de Corneille pendant 6 mois et qu'à la suite de ça a lieu le fameux miracle. Quel miracle ? Celui qui consiste à muer un auteur facile de farce un peu grossière en une sorte de dramaturge de haute volée. Ça, c'est une transfiguration unique. On n'en a pas d'autre exemple dans l'histoire de la littérature. Avant le passage de Molière à Rouen, vous avez des farces comme la jalousie du barbouillé, Gorgibus dans le sac. J'ai vu d'ailleurs l'autre jour qu'on faisait encore apprendre la jalousie du barbouillé à l'école. Il y a des gens qui ont le moral. Et puis, après Rouen, et sans aucune tradition, de subtiles études de mœurs comme l'étourdi, les précieuses ridicules, etc. C'est quand même bizarre ce changement. Émile Henriot, le grand critique et auteur, disait, je le cite, « Molière était un homme après tout et j'aimerais savoir par quelle voie cet homme supérieur est devenu tel. Simplement, personne ne nous l'a encore dit. Nous n'avons qu'à admirer les yeux fermés. » N'est-ce pas ce qu'on demande à des adorateurs ? Que de choses restent inexpliquées, poursuit Henriot. Passe encore pour les œuvres secondaires, mais les grandes, les immortels, Don Juan, Tartuffe, le misanthrope, Amphitryon, dans quelles conditions ? Conçues de longtemps, ou longtemps portées ou écrites de verve, et sorties tout armées du front de ce Jupiter théâtral, on ne sait pas, on ne comprend pas, on s'étonne, et puis c'est tout. Pourtant, un constat aurait dû mettre la puce à l'oreille des spécialistes. C'est que lorsqu'en octobre, retour de Rouen donc, de retour à Paris et propulsé du jour au lendemain comédien ordinaire de Monsieur Frère Unique du Roi, lorsque Molière et ses comparses jouent pour la première fois au Louvre devant Louis XIV, la tragédie qu'ils interprètent se trouve être Nicomède, d'un certain Corneille, dites donc. Et 3 semaines plus tard, devant le même public, ils vont donner cette fois, après les précieuses ridicules enlevées de rideau, Cinna, du même Corneille. Un Corneille qui, du reste, a fait en même temps que le voyage de Paris parce qu'il avait besoin de rencontrer Fouquet. Je vous ai dit que le surintendant Fouquet était alors son nouveau protecteur. Molière et la troupe vont enchaîner avec Héraclius, Hérodogune et la mort de Pompée. Tout ça de Corneille. C'est pas moi qui le dis, c'est Georges Couton qui dirige l'édition de Molière dans la Pléiade et qui reconnaît lui-même, je le cite, « L'obstination de Molière à jouer du Corneille est frappante. Il reprend des pièces anciennes, il monte des pièces nouvelles. Tout se passe comme si, avec une obstination digne d'un meilleur succès, il avait voulu se faire l'interprète de Corneille, voire s'imposer à Corneille comme son interprète. » Or, désormais, Molière va jouir de la faveur du roi. Ça lui vaut un appui incomparable, mais ça lui vaut aussi une cascade de commandes à satisfaire.
Au cœur de l'histoire ouvre cet après-midi sur Europe 1 le dossier Corneille, Molière, Franck Ferrand.
Et oui, depuis leur passage à Rouen chez les Corneille, Molière et ses compagnons sont devenus les comédiens à la mode. Ils sont devenus tout simplement les comédiens du roi, les commandes pleuvent. Il faut fournir un travail considérable. Et évidemment, Molière aurait bien besoin qu'on lui donne un coup de main. Eh bien, ce qui est certain, c'est qu'une main-d'œuvre tout à fait talentueuse et disponible va être à sa disposition tout près de chez lui à partir du mois de décembre 1662. En effet, ça c'est une chose qu'on ne dit pas suffisamment, mais le grand Corneille, avec sa femme et son frère Thomas, finissent par accepter de quitter la ville de Rouen. Il faut savoir que Pierre Corneille a toujours vécu à Rouen, même à l'époque où le fait d'habiter à Paris aurait pu faciliter son entrée à l'Académie française, il avait refusé de quitter sa ville natale. Et bien là, il quitte Rouen et il s'installe à Paris, chez le duc de Guise justement, autant dire à quelques pas du domicile de Molière, rue Saint-Thomas du Louvre. C'est la première fois de sa vie à 56 ans, je dis bien la première fois, que Corneille quitte la rue de la Pie. Et jusqu'à quand est-ce qu'il va rester comme ça à Paris? Eh bien, je vous le donne en mille, jusqu'en 1673, autrement dit jusqu'à la mort de Molière. Cela vous paraît peut-être trop beau pour être vrai. En tout cas, c'est la vérité. Et si quelqu'un peut me dire ou affirmer le contraire, alors là, je suis très curieux de l'entendre et je suis ravi, Julia, que vous ayez conseillé à nos auditeurs de nous envoyer des messages. Une chose que l'on ne dit pas souvent non plus, c'est qu'à deux reprises, la loi du silence sur la collaboration entre Corneille et Molière, cette loi du silence a été rompue. La première indiscrétion, elle a été commise par l'éditeur Quinet au moment de l'édition du Dépit amoureux. C'était en 1662. Quinet adresse son édition à un haut magistrat et il lui présente la pièce comme étant, je le cite, « de l'auteur le plus approuvé de ce siècle ». Vous n'allez pas me dire que Molière, chef de troupe, comédien, qu'on n'a jamais vu une plume à la main, était l'auteur le plus approuvé de son siècle en 1662. C'était évidemment Corneille, l'auteur le plus approuvé de son siècle. Mais il y a plus probant encore. Là, on est en 1671, au moment de la création de Psyché. Il faut savoir que, vous savez que Psyché est écrit en collaboration et que tous les intermèdes musicaux ont été conçus par Philippe Quinault. Or, Quinault entend bien que son nom figure en tête. Et donc, il va falloir faire une préface pour expliquer. Et là, c'est Molière qui cette fois tient la plume. Je cite « Cet ouvrage n'est pas tout d'une main. Monsieur Quinault a fait les paroles, qui s'y chantent en musique, à la réserve de la plainte italienne. Monsieur de Molière a dressé le plan de la pièce et réglé la disposition, où il s'est le plus attaché aux beautés et à la pompe du spectacle qu'à l'exacte régularité. Quant à la versification, ça je l'invente pas, c'est écrit noir sur blanc, il n'a pas eu le loisir de la faire entière. Le carnaval approchait et les ordres pressants du roi qui se voulait donner ce magnifique divertissement plusieurs fois avant le carême l'ont mis dans la nécessité de souffrir un peu de secours. Qu'en termes élégants, ces choses-là sont dites. Ainsi, conclut la préface, il n'y a que le prologue, le premier acte, la première scène du deuxième acte et la première scène du troisième dont les vers soient de lui Molière. Monsieur Corneille a employé une quinzaine au reste et par ce moyen, Sa Majesté s'est trouvée servie dans le temps qu'elle avait ordonné. Et voilà comment la vanité de Quinault aura eu raison de la discrétion de Corneille. Pour une fois, le maître est dévoilé. En vérité, il pouvait d'autant mieux accepter d'apparaître ici que la pièce est inoffensive. On est loin là des précieuses ridicules et encore plus de Tartuffe. Ça n'attaque personne, ça ne met pas dans la difficulté de signer une pièce pareille. Encore, la pièce pouvait-elle paraître excessivement sentimentale sous la plume du grand tragédien. D'ailleurs, son neveu Fontenelle, beaucoup plus tard, écrira dans sa vie de Monsieur de Corneille qu'ayant écrit Psyché, je cite, « à l'ombre du nom d'autrui, son oncle s'y est abandonné à un excès de tendresse dont il n'aurait pas voulu déshonorer son nom. » J'entends renacler les sceptiques. « Oh oui, je vous entends. Allez, bon, va pour Psyché. » Mais tout de même, si Corneille avait travaillé pour Molière en dehors de cette pièce-là, on retrouverait sous le nom de Molière des thèmes, des noms, des références. Estampillé Corneille. Eh bien, encore une fois, c'est le cas. Il y en a des dizaines. Il suffit d'aller consulter n'importe quel texte de Molière pour se rendre compte que les ressemblances avec ceux de Corneille sont frappantes. Elles sont tellement importantes, ces ressemblances, qu'elles ont fait l'objet d'études scientifiques et linguistiques, lexicales et grammaticales très poussées, très avancées. Et j'ai, à ce propos, du nouveau à vous dire, car depuis quelques jours maintenant, on dispose sur cette affaire d'éléments tout à fait nouveaux et nous les évoquerons tout à l'heure en compagnie du plus grand spécialiste de la question, Denis Boissier en personne, qui est avec moi dans ce studio et qui piaffe de répondre à toutes les objections qu'on a l'habitude de lui adresser. Ainsi donc, outre la joie d'écrire de nouvelles comédies et la satisfaction de solder ses vieux comptes sans prendre de risques, Corneille a pu trouver beaucoup d'intérêt à écrire pour Molière. Il a pu trouver notamment un intérêt matériel. Ça aussi, nous aurons l'occasion d'y revenir en temps utile. La collaboration discrète va continuer pendant très longtemps. Je n'entre pas dans les détails, nous y reviendrons après le flash de 14h. Ce qui est important et ce qu'il faut préciser, c'est que Corneille, le roi-nais, n'est-ce pas, à aucun moment n'a eu intérêt à revendiquer cette collaboration avec Molière. Ces comédies étaient des comédies indignes d'un grand tragédien qui s'était hissé sur les plus hautes marches. Je vous l'ai dit, cette paternité n'apportait rien à sa gloire, même elle risquait de la desservir et elle le mettait, vous l'avez compris, en danger face aux puissances attaquées. Corneille, s'il a bel et bien écrit une grande partie des pièces de Molière, et vous verrez même qu'il a écrit encore bien d'autres choses, est incontestablement le grand auteur français. Il est notre Dante, notre Shakespeare, notre Cervantes. Les Français avaient sous les yeux un grand génie de la littérature universelle. Ils l'ignoraient. Ce maître s'appelait Pierre Corneille.
Sur Europe 1,
au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
L'affaire Molière aux éditions Jean-Cyril Godefroy, c'est le titre du livre de Denis Boissier qui est votre invité sur Europe 1, Franck Ferrand.
Et oui, Julia, or Denis Boissier a écrit bien d'autres choses que cette affaire Molière. Vous êtes à combien de pages à peu près, Denis Boissier, de textes sur l'affaire Corneille-Molière?
Bonjour à vous, je vais être un peu imprécis, disons 2500.
2500. Et vous êtes par ailleurs l'animateur d'un site, un site internet qui est devenu un must pour tous les amateurs d'énigmes historiques. Je vous laisse le citer.
Corneille-Molière.org qui rassemble tous les chercheurs cornéliens sur l'affaire Corneille-Molière.
D'ailleurs, ce qui est pas mal, c'est qu'Internet amène à écrire Molière sans accent et c'était la façon dont on l'écrivait au XVIIe siècle.
Exactement, oui. Il y a derrière aussi le nom de Molière beaucoup d'énigmes. Vous savez, Molière n'a jamais su exactement d'où venait ce nom. Et ce qui est intéressant, c'est que son premier biographe, Grimarest, qui connaissait bien le monde du théâtre, il était l'ami du disciple de Molière, a précisé Molière, enfin Poquelin, disons, Molière n'a jamais voulu dire à ses amis, les amis tardifs évidemment, quelle était l'origine et la signification de son nom Molière. Pourquoi un homme cacherait-il la signification de nom qui, semble-t-il, d'ailleurs est banal, puisque Molière
pseudo, oui,
existe comme un nom typotopographique? Simplement parce que dans l'ancien temps, en Normandie surtout, existait un verbe qui était le verbe moliéré et qui voulait dire légitimer. Corneille était un grand seigneur des lettres. Il a rencontré un jeune homme de 20 ans qui l'admirait.
20 ans, ça c'est lors d'une première rencontre.
Car oui, parce que vous n'avez pas précisé, évidemment on ne peut pas tout dire, ce sont des longues vies, des longues carrières, mais que Molière a rencontré Corneille une première fois avec la troupe donc de Madeleine
des Jarres
en 1643. Et donc il était très jeune, il avait 20 ans, il était un apprenti comédien. Et il admirait qui? Bien évidemment, comme tous ses amis comédiens de la troupe, il admirait Pierre Corneille, qui était une sorte de père, puisque quand même Corneille avait pratiquement 26 ans de plus que lui.
Alors vous aurez remarqué, vous, je suis sûr que vous aurez remarqué ça, Denis Boissier, plutôt que de parler de Corneille et surtout de Molière, comme on fait d'habitude, j'ai parlé aujourd'hui surtout de Corneille et
bien
un
sûr.
Tout petit peu de Molière. On connaît très mal ce Corneille, il y a énormément de choses qu'on ne sait pas. On ne sait pas, par exemple, que lorsqu'il avait 20 ans, il était fournisseur de comédie pour un des plus grands comédiens et chefs de troupe de l'époque.
Exactement. Étudier Corneille, c'est découvrir un homme extraordinaire. Une sorte de Don Diego Zorro de la littérature. C'est un homme qui se cache toujours à moitié. Peut-être son caractère de Normand est-il pour quelque chose, mais c'est un homme qui est secret, profondément secret. Lorsqu'il se vante, il ne se vante que d'une seule chose, de pouvoir tout écrire, de pouvoir prendre tous les styles. Et effectivement, sa carrière théâtrale l'a très, très bien montré. Le roi de la comédie, c'est lui pendant 15 ans. Le roi de la tragédie, c'est lui pour le reste de sa carrière. Et en secret, il redevient le roi de la comédie, mais sous le nom beaucoup plus facile et beaucoup plus inattaquable de Molière. Pour donner un exemple, oui, à 20 ans, 25 ans, que fait Corneille? Ce n'est pas le grand homme que l'on va étudier dans les lycées des années plus tard.
C'est pas le tragédien.
C'est un jeune homme qui veut réussir. Et qu'est-ce qu'il fait? Il devient le fournisseur de la troupe numéro 1 de l'époque, celle de Mondori, qui marche bien, et qui lui dit « Écoutez, vous avez un talent fou, écrivez une bonne comédie, si elle est bonne, je vous la prends, si le public la trouve bonne, je vous prends les autres. » Et il aura ainsi donné à la troupe de Mondori 3 pièces, 3 comédies.
Et sous son nom, il écrit ses 9 premières pièces, sont 9 comédies. C'est quand même incroyable.
Bien sûr, et c'est un auteur de comédie. Il a été
appelé... c'est pas les 9 premières, c'est les 8 premières plus la 9e qui vient plus tard. Mais enfin,
d'accord,
peu importe.
On va simplifier. Parce que ça ne simplifie pas avec l'affaire Corneille-Molière. On est perdu. Donc, oui, cet homme-là a toujours écrit des comédies. D'abord parce que, comme il a écrit dans une lettre vraiment privée...
On parle pour lui, de Corneille. De Corneille, pour les gens qui prendraient en cours, on croirait qu'on parle de Molière.
Bien sûr,
on parle là du tragédien Corneille, qui est d'abord un auteur de comédie.
Exactement.
Qu'on appelait d'ailleurs
le poète comique de son siècle. Et Le Menteur a été le plus gros succès de son temps.
Le Menteur, c'est son avant-dernière comédie.
Exactement.
Hein.
Et tous les moliéristes vous diront que Le Menteur préfigure totalement le style que va développer Molière donc 20 ans plus tard, ou si l'on préfère, le style que va reprendre 20 ans plus tard, Corneille sous le nom de Molière.
On a une image complètement fausse de Corneille. Notamment, on imagine très bien Corneille traduisant l'imitation de Jésus-Christ en vers, mais on oublie qu'il a aussi eu des œuvres érotiques.
Alors, premier exemple, il traduit l'imitation. On se dit, ben voilà, un auteur pieux. Et c'est ainsi d'ailleurs qu'on le présente encore de nos jours aux lycéens, un auteur pieux, dont finalement sentencieux, dont finalement triste mine.
Un peu grenouille de bénitier.
Exactement,
quand même.
Donc pas intéressant. Et au contraire, Molière a toutes les vertus. Or, pourquoi Corneille a écrit? Évidemment parce qu'autour de lui, les gens riches étaient tous pieux, donc il ne pouvait pas, en tant que bourgeois, se permettre de ne pas l'être. Il a été libertin, mais toujours évidemment caché. C'est le monsieur tranquille de la résistance morale, Corneille. Non, tout simplement, il écrit...
On retiendra l'expression, la formule.
Il écrira... Des traductions pieuses, pour la bonne raison, c'est ce qui était le payé le mieux de son temps. Et quand ça marchait, on pouvait être assuré d'avoir un énorme public, celui des dévots. Mais de là à croire que Corneille était dévot, il y a une grosse marche. Et lorsqu'on étudie ce qu'on ne fait plus aujourd'hui, puisque, à nouveau, Corneille est toujours triste, donc pas la peine d'étudier dans le détail son œuvre, et là, grave erreur, c'est un auteur de textes érotiques. Toutes ses comédies sont crues. Mais il est vraiment cochon.
Il est même allé plus loin. Il a carrément écrit L'occasion recouvrée. Là, on est carrément dans le salas.
On n'en est pas 100% sûr, mais ce qui est certain, c'est que des gens très bien placés de son temps l'ont accusé, ce qui prouve bien qu'il y a quelque chose, l'ont accusé d'avoir effectivement écrit le texte pornographique de son temps. Et lorsqu'on l'étudie, lorsqu'on voit la qualité du style et tout, on peut se poser beaucoup de questions. Allez-y.
Alors oui, pardon. Par ailleurs, on nous dit, vous savez, Corneille n'a jamais, ne pouvait pas condescendre à collaborer comme ça avec d'autres. Mais il a passé sa vie, dites-vous, à le faire.
Bien
il
sûr.
A collaboré avec tout le monde. Avec le cardinal de Richelieu, ça, évidemment.
Voilà la seconde grande étape de sa vie. Qui a bien préparé, d'ailleurs, un jour à sa collaboration avec Molière. C'est tout simplement, il a rencontré quelqu'un de très, très puissant, qui était cardinal de Richelieu, qui rêvait d'être un grand auteur, qui ne pouvait pas l'être pour diverses raisons.
Intellectuelles
et disons, oui, manque de temps. Et il a donc travaillé pour lui, ça on le sait. Et il a travaillé aussi pour l'intendant richissime de Richelieu,
Desmarets
de Saint-Sorlin.
Absolument.
Et il est important de voir qu'en plus, Desmarets Saint-Sorlin, qui détestait écrire des comédies, et qui d'ailleurs les reniera plus tard, a écrit, semble-t-il, la pièce la plus célèbre de son temps, comédie après Le Menteur de Corneille, qui est Les Visionnaires. Or, Pierre-Louis a montré, et je me suis permis moi aussi de suivre les travaux de Pierre-Louis et d'avancer un peu, effectivement, il y a beaucoup de chances pour que Corneille soit derrière la pièce des visionnaires, on retrouve 80% de cette thématique.
Pour ceux qui ne m'auraient pas entendu déjà déblatérer sur le sujet, je rappelle, et c'est pour ça que vous citez Pierre-Louis, que c'est Pierre-Louis en 1919, donc le grand auteur Pierre-Louis, hein, par ailleurs, l'auteur des chansons de Bilitis.
Bien sûr, non seulement poète, mais aussi un érudit.
Et très grand érudit, un des plus grands connaisseurs qu'on ait jamais connu du XVIIe siècle. Pierre-Louis a lancé ce pavé dans la mare en 1919, en disant, eh bien, en fait, c'est Corneille qui a écrit un certain nombre des pièces de Molière. Alors ça a fait depuis beaucoup de bruit. Celui qui a ressorti l'affaire au tout début des années 1990, et je le salue très chaleureusement s'il nous écoute, c'est évidemment Hippolyte Vouters. Et à la suite d'Hippolyte Vouters, un certain nombre d'érudits, de spécialistes se sont penchés sur le sujet. Vous êtes évidemment leur chef de file, Denis Boissier, mais nous allons voir qu'il y a aussi parmi ces gens des linguistes qui ont fait avancer et considérablement avancer la question.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Jusqu'à 14h30 sur Europe 1, nous sommes au cœur de l'affaire Corneille-Molière, Franck.
Vous vous rendez compte, nous avions le plus grand des auteurs dramatiques, en tout cas français, et nous l'ignorions parce que tout le monde pense, et dit encore pour une immense majorité des leaders d'opinion, comme on dit, que Corneille est un tragédien, point final. On oublie les comédies qu'il a signées sous son nom, et surtout, ce qui est beaucoup plus étonnant, on oublie l'immense quantité de textes qu'il n'a pas signés, qu'il a laissés endossés par d'autres, au premier rang desquels figure évidemment le célèbre Molière. Alors pour redresser ce tort et pour nous remettre sur le droit chemin, nous avons invité aujourd'hui Denis Boissier. Alors Denis, nous avons évidemment beaucoup, moi je l'ai fait ici à cette antenne, je l'ai fait souvent dans des conférences, dans des livres, etc. On avance beaucoup d'arguments biographiques et historiques. C'est-à-dire que quand on prend la biographie de Molière et la biographie de Corneille, on se rend compte qu'il y a un nombre de coïncidences. C'est ce que j'ai essayé de raconter dans la première partie de cette émission, colossale. Mais il y a un autre biais également, il y a un autre moyen d'aborder la question, c'est par le biais du style lui-même. C'est-à-dire que lorsqu'on écoute, on va passer, peut-être pas les extraits entiers, mais juste des tout petits morceaux, je vais vous faire écouter la musique en quelque sorte d'Horace, par exemple, de Corneille.
Mais as-tu vu mon père? Et peut-il endurer qu'ainsi dans sa maison tu t'oses retirer? Ne préfère-t-il point l'État à sa famille? Ne regarde-t-il point Rome plus que sa fille? Enfin, notre bonheur est-il bien affermi? T'a-t-il vu comme gendre ou bien comme ennemi?
Il m'a vu comme gendre, avec une tendresse qui témoignait assez une entière allégresse. Mais il ne m'a point vu par une trahison indigne de l'honneur d'entrer dans sa maison.
Voilà, alors on aimerait entendre toute la scène, cette scène du premier acte d'Horace. On écoute maintenant la musique, si je puis dire. Vous allez voir, pas si différente de Tartuffe, signé Molière cette fois.
Non, madame, non! Ceci doit se répandre! J'étais en cet endroit, d'où j'ai pu tout entendre. Et la bonté du ciel m'y semble avoir conduit pour confondre l'orgueil d'un traître qui me nuit pour m'ouvrir une voie. À prendre la vengeance de son hypocrisie et de son insolence, à détromper mon père et lui mettre en plein jour l'âme d'un scélérat qui vous parle d'amour.
Non, Damis, il suffit qu'il se rende plus sage et tâche à mériter la grâce où je m'engage. Puisque je l'ai promis, ne m'en dédite pas. Ce n'est point mon humeur de faire des éclats. Une femme se rit de sottises pareilles et jamais d'un mari n'en trouble les oreilles.
Vous avez vos raisons pour en user ainsi. Mais pour faire autrement, j'ai les miennes aussi.
Alors on a évidemment un ton différent, parce que dans un cas on est dans une tragédie, dans l'autre dans une comédie. On a des vers, vous allez me dire les alexandrins, tous les alexandrins se ressemblent. Erreur ! Les alexandrins sont très différents d'une pièce à l'autre. Et ce qui est étonnant, Denis Boissier, c'est que lorsqu'on compare les textes d'une manière scientifique, on se rend compte d'une très grande proximité. C'est ce qu'a fait Dominique Labbé. Il faut parler de ces travaux-là.
Oui, en 2001, Dominique Labbé, qui est chercheur à l'Institut Grenoble-Bois, a pratiqué sur le corpus Corneille Molière toute une analyse syntaxique et lexicale grâce aux statistiques appliquées aux lettres. Et le résultat a été que les 16 principales pièces de Molière étaient signées de la main de Corneille, si on en croit l'ordinateur qui n'a pas de parti pris. Alors évidemment, il a été le premier surpris parce qu'on lui avait proposé de faire ça parce que c'était deux auteurs consacrés et que c'était un bon sujet de recherche. Il était le premier surpris. Il a annoncé ça gentiment en croyant que
lui,
ça allait
être...
Lui,
il a fait une conférence de presse. Bien sûr. Il était quand même content de sa trouvaille, mais
oui,
il ne pensait pas qu'il allait se mettre.
C'est très intéressant de savoir que ces deux hommes qui quand même se fréquentaient beaucoup ont eu plus qu'une simple fréquentation amicale, mais aussi une fréquentation professionnelle. Et évidemment, les moliéristes et toute l'université qui ne pouvait pas supporter de s'être trompée depuis pas mal de décennies, sur ce point-là du moins, tous lui sont tombés dessus.
Ils lui sont tombés dessus. Alors, il y a une vengeance, en tout cas on va dire une revanche, pour être plus aimable, de Dominique Labbé, c'est que depuis quelques semaines maintenant, on connaît les résultats d'une étude du même genre, mais qui a été faite cette fois sans le secours de l'informatique. C'est une étude littéraire.
Non.
Avec l'informatique aussi, en fait
pour Dominique Labbé ou
oui,
pour la
Saint-Pétersbourg.
Ah oui, non
c'est
oui,
ça.
Parce que non. Effectivement, Dominique Labbé a continué ses recherches aussi historiques et tout, approfondissant toujours le sujet, puisqu'il avait été vexé d'être traité de tous les noms, alors qu'il était simplement comme bon scientifique. Et donc, depuis 2008-2009, des scientifiques de l'Université de Saint-Pétersbourg.
Et on a eu les résultats là,
voilà, ont appliqué une méthode statistique différente de celle de Dominique Labbé, mais complémentaire finalement, en disant rivale et complémentaire, n'étudiant pas cette fois le champ lexical comme Dominique Labbé, mais la
C'est-à-dire dire, alors, proprement dit. Pour les gens qui ne seraient pas familiers de toutes ces questions littéraires, ce qu'on appelle le champ lexical, ce sont les mots employés pour parler clair.
Et le couplage des
et
mots.
Et le couplage, la façon dont ils sont assemblés.
Voilà, personne n'assemble les mots de la même façon.
Et la syntaxe, c'est la façon dont les phrases sont formées
voilà,
et conduites.
C'est la morphologie même des phrases. C'est, disons, peut-être plus poussé par certains aspects que celle de Dominique Labbé, quoique c'est les résultats sont à peu près les
alors,
mêmes.
Alors, pour parler clairement, lorsqu'on demande à un ordinateur et à un programme très sophistiqué,
oui, ce sont des algorithmes très lourds. Hein, oui.
De comparer les champs lexicaux de Corneille et ceux de Molière, on se rend compte qu'il y a identité absolument incroyable. C'est dessillant. L'ordinateur rend des chiffres hallucinants.
Oui.
Et lorsque, des années plus tard, des chercheurs russes demandent, alors là, cette fois, non pas à l'ordinateur, mais à leur propre modèle.
La linguistique fait, mathématique.
La linguistique
oui.
mathématique. De comparer les structures, les formations de phrases d'une œuvre et celle de l'autre. Oui. Même chose, ils arrivent aux mêmes conclusions et ils nous disent, c'est le même auteur.
Oui. L'auteur de cette nouvelle recherche, le professeur Marusenko, est théoricien aussi de la doctrine de la reconnaissance des formes, donc, qui est une science statistique appliquée en Russie pour à peu près tout. Et donc, ne tenant pas compte du tout des résultats de la technique de Labbé, ont essayé avec la leur de technique de voir ce que ça donnait. Et ils ont obtenu pour les pièces essentielles versifiées, ils ont travaillé que sur les pièces versifiées, les grandes pièces donc de
Molière. Les pièces en vers, oui.
Exactement, c'est pour cela qu'ils ont travaillé, parce que c'était les plus célèbres, autant travailler sur un bon corpus. Ils se sont aperçus que l'ordinateur leur donnait un résultat de 95%, ce qui est énorme. À partir de 60, déjà, on avance bien dans toutes les branches de la littérature. Pour Corneille, on pouvait évidemment espérer encore plus, et ils ont obtenu 95%. Donc, alors, Tartuffe est bien de Monsieur Pierre Corneille. D'ailleurs, écoutez, n'importe quel lecteur qui veuille bien travailler sur le substrat de ces pièces-là va s'apercevoir que ces pièces font allusion à des doctrines, à des théories, à des lectures.
À des références.
À des références que Corneille avait, parce qu'il avait une énorme bibliothèque et que c'était un érudit. Or, Jean-Baptiste Poquelin, qui était un comédien admirable, si vous voulez, avait une bibliothèque de 226 ouvrages, à une époque où le moindre bon bourgeois n'avait 5000. 15000 pour les gens fortunés. Celle de Corneille faisait rêver Boileau, pour vous dire. Donc cet homme-là qui n'avait même pas un atelier, même pas un bureau pour écrire. On n'a pas retrouvé de bureau dans les deux maisons de Molière. Donc cet homme-là aurait toute la culture, tous les tics techniques et stylistiques de Pierre Corneille, alors qu'il est quand même avant tout un farceur et un comédien du roi.
Dès lors, on se pose une question. On se dit si la biographie des deux, si l'histoire, si la linguistique, si tous les éléments par A plus B depuis tant d'années apportent tant de preuves en faveur de la patte de Corneille derrière l'œuvre de Molière, d'où vient-il qu'actuellement la quasi-totalité de nos contemporains continue à croire que Molière a écrit ses propres pièces?
Jusqu'à 14h30 sur Europe 1,
plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Et aujourd'hui sur Europe 1, l'affaire Corneille-Molière.
Bonne nouvelle, nous avons en ligne une sommité des planches françaises. Jean-Laurent Cochet est comédien, bien sûr, metteur en scène, chef de troupe et professeur d'art dramatique. C'est vous dire l'importance de ses avis en matière de théâtre. Bonjour, cher maître.
Bonjour, Franck. Ça va bien ?
Mais ça va très bien. Et ça va surtout très bien lorsque j'apprends que vous êtes de plus en plus campé sur vos positions concernant notre affaire Corneille-Molière.
Ah oui, fermement. Et maintenant, je ne prends plus la peine quand par hasard des gens paraissent difficiles à convaincre et font les sceptiques, etc. Je ne donne plus tous les détails que l'on a maintenant. On connaît
et Dieu, sait
qu'on,
Dieu sait qu'il y en a, on vient de le voir là. Quand
et
même.
Dieu sait qu'il y en a. Et je leur dis simplement, pour moi, c'est vraiment une question de conviction personnelle. L'autre matin encore, j'écoutais un élève qui me donnait une scène de Don Luis dans Don Juan et je me disais, mais comment, même moi, plus tôt encore que je ne l'ai fait,
et oui.
N'ai-je pas pu me rendre compte qu'il y a, deux auteurs, c'était évident, et on ne peut pas aller là contre.
Quand vous parlez-vous à vos élèves oui. de cette affaire, comment réagissent-ils? J'imagine qu'ils ne sont quand même pas tous d'accord. Si l'on ose n'être pas d'accord avec Jean-Laurent Cochet.
Oui. Non, il y a, comment vous direz, il va quand même falloir avouer une chose, c'est que même parmi mes élèves, qui sont des gens très bien, ils viennent de tas de milieux différents, mais sont des gens très bien, d'un bon esprit, etc., il y a ceux, osons le dire, qui s'en foutent.
Oui.
Et malheureusement, ça c'est une chose qu'il y a dans, pas seulement chez eux, mais chez d'autres personnes, on s'en était parlé, vous vous souvenez, il y a ceux
bien
pour
sûr,
qui
oui.
tout ça, ah
n'a
oui,
pas tant
bon, peut-être, oui, non, je ne sais pas. Il y en a quelques-uns, je suis en parfait désaccord, on en parle souvent justement amicalement, bien sûr, avec Arnaud Denis, mon metteur en scène des femmes savantes.
Oui.
Je le critique beaucoup avec ça, parce que lui, il veut rien entendre. Il veut pas se laisser convaincre. Pour lui, c'est rabaisser Molière que de vouloir. Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Au contraire, c'est les mettre l'un et l'autre à leur place. Mais sinon, dans l'ensemble, oui.
Et c'est rendre à Corneille toute l'immense importance qui doit être la sienne,
bien
au
sûr.
Cœur des lettres françaises.
Mais bien sûr, et qu'il n'a toujours pas, c'est le grand auteur du XVIIe. Ça ne retire rien à ce qu'a été Molière. Mais bien sûr que c'est pour Corneille que c'est important.
Est-ce que vous pensez qu'un jour les mentalités vont évoluer et qu'on finira par reconnaître ce qui est ?
Oh, écoutez, je le souhaite tellement. Je n'ose pas être trop optimiste. C'est dans ma nature. Bon, c'est une espèce de vice chez moi.
C'est une superstition.
Oui, mais étant donné ce qui nous entoure, étant donné... j'ose pas trop espérer. Si ce n'est que je continue en ce qui me concerne absolument... ma démarche, pour moi, c'est tellement évident de plus en plus dans tout le travail que je fais sur Molière, justement, puisqu'il faut continuer à l'appeler comme ça. Non, quoi que maintenant, j'ai réussi au cours. Vous voyez qu'ils sont de bons adeptes. On dit Corneille-Molière.
Ce qui est un véritable pas. Merci beaucoup, Jean-Laurent Cochet, de nous avoir transmis avec tant de cœur votre conviction. Merci beaucoup.
Au revoir.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et je n'ai pas le temps de la prendre au téléphone, mais je salue Armel qui nous envoie donc un mail et qui nous dit que à 14h, il n'y avait qu'un seul fait historique dans l'émission. Tout le reste, en gros, c'était du roman policier. Alors, j'espère qu'à 14h26, Armel, vous avez entendu beaucoup de faits historiques. Et si vous n'en avez pas assez, vous pouvez en trouver des centaines, et je dis bien des centaines, sur le site corneille-molière.org, animé par 1000 pages, me dit Denis Boissier. D'ailleurs, vous avez traduit pour le site les conclusions de l'étude russe.
Toute l'étude, 70 pages traduites en français du professeur Marusenko et de Elena Rodionova.
Vous avez par ailleurs écrit, on l'a dit, des milliers de pages sur le sujet et vous avez fait une thèse, on peut dire, Denis Boissier, quelque chose d'absolument énorme. C'est un très gros pavé qui s'appelle Molière, bouffon du roi et prête-nom de Corneille, qui pour l'instant n'a toujours pas été édité. Alors je le signale parce que je sais qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent régulièrement et je veux donc leur signaler qu'il y a là un chef-d'œuvre à publier. Vous en avez d'ailleurs fait un résumé en 300 pages qui s'appelle Tout savoir sur l'affaire Corneille-Molière.
Oui, pour notre public, oui, pour penser à tout le monde.
Un mot simplement et promettez-moi d'être court parce qu'après il va falloir que nous rendions l'antenne, mais vous me disiez là juste hors antenne pendant la publicité que Boileau avait un peu dévoilé le poteau rose.
Tenez,
quand même.
Cette dame qui voulait un fait historique,
voilà. On va essayer Armel, d'être... que nous saluons très chaleureusement.
Bonjour madame, je vais essayer d'être très précis. Vous savez que Boileau a écrit une satire à Monsieur de Molière en 1664, qu'il n'a d'ailleurs pas osé signer, car on ne pouvait pas s'attaquer au bouffon du roi. Et il dit de moi, Boileau, vous le savez, ce fameux passage, rare et fameux esprit, dans la fertile veine ignore un écrivain le travail et la peine. Je passe un peu pour qui Apollon tient tous ses trésors ouverts et qui sait à quel coin se marquent les bons vers. Voilà, c'est parfait. On se dit, Boileau vante Molière. Il montre bien à tout le monde le talent extraordinaire de Molière. Nous sommes d'accord, tous les moliéristes le disent ainsi. Bon, en cherchant bien, j'ai exhumé un texte de Boileau avec son secrétaire Le Verrier qui dit exactement ceci. Je cite... L'auteur donne ici à son ami une facilité de tourner un vers et de rimer que son ami n'avait pas. Mais il est question de le louer et de lui faire plaisir. Voilà qui est clair, me semble-t-il.
Voilà qui est clair. Merci beaucoup, Denis Boissier. Merci à toute l'équipe, à Lorena, à Guillaume, à Nicolas. Et on se retrouve évidemment lundi, nous, Julia.
Avec grand plaisir.
Est-ce que tu permets que je te tutoie, Faustine ?
Bien volontiers. Vous savez que ça se fait beaucoup, évidemment, dans le milieu de la communication et des médias, mais beaucoup moins dans les autres milieux professionnels. On va en parler, justement, aujourd'hui. On va ouvrir ce kiosque avec deux journalistes en studio pour présenter deux sujets différents. Dans un premier temps, on va donc évoquer un sondage dans lequel il est question du lien entre les Français et leur patron. Est-ce que vous attendez de votre patron qu'il soit autoritaire, protecteur ? De quelle manière on perçoit nos supérieurs hiérarchiques ? Et s'il vous faisait penser à un animal ? Ça serait lequel ? On vous pose la question au 39-21. Et puis on évoquera, comme vous venez de le dire, Franck, la question du tutoiement, mais également de l'improvisation en entreprise. Il faut savoir improviser pour se sortir à tout prix de toutes les situations délicates. On en vit régulièrement sur cette antenne. Et on va voir si justement ce sens de l'improvisation et de la répartie, ça s'apprend. En tout cas, de nombreux stages sont organisés en entreprise et on va en parler. 39-21 pour nous joindre en direct sur Europe 1. Et je t'embrasse, Franck, à lundi.
Merci, Faustine.